Bonjour, ce matin dans Chrétiens d'Orient, je reçois un jeune doctorant qui a fait de la question des chrétiens sous l'époque sassanide une spécialité. Simon Brelot, bonjour.
Bonjour.
Vous voyagez entre les textes, rares me semble-t-il, et vos terrains au Moyen-Orient, entre autres. Je pense au nord de l'Irak, dans la région kurde, pardon, le gouvernement régional autonome du Kurdistan, où vous travaillez sur un site, le monastère de Bazian. Alors vous nous expliquerez un petit peu ce dont il s'agit. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire de ces premières communautés, je suis curieux de savoir les chemins qui vous ont mené vous-même en Mésopotamie.
Alors, le nom de Mésopotamie, déjà, fait rêver l'historien. Et au cours de mes études, je me suis d'abord intéressé à une ville importante dans l'histoire de l'Antiquité tardive. C'est la ville d'Al-Hira, située à côté de Najaf aujourd'hui, qui a été un lieu important pour le christianisme et pour l'installation des populations chrétiennes arabes. C'était d'abord la porte d'entrée pour moi dans l'univers mésopotamien, c'est-à-dire la question des Arabes dans cette région. Et je me suis intéressé ensuite tout naturellement à leur littérature et à un monde qui était à cette époque le monde syriaque.
Alors comment on arrive Hira qui est en Irak maintenant?
Oui, à côté voilà. De Najaf.
Donc Najaf, comment on arrive là-bas? Comment vous avez décidé de vous intéresser à cet Orient, de vous lancer dans l'étude de ces langues?
Alors pour quelqu'un, un esprit curieux qui s'intéresse à la fois aux textes arabes et syriaques, c'est assez naturellement qu'on se tourne vers cette ville qui est mentionnée dans des textes du 5e, 6e siècle, 7e siècle en syriaque et qui a été très importante dans l'historiographie plus tardive des auteurs abbassides, qu'ils soient de langue arabe ou syriaque et qu'ils soient de religion chrétienne ou musulmane.
Alors une ville du désert, un petit peu comme Palmyre peut-être, une espèce de royaume indépendant, et je crois un royaume qui se convertit, dont les rois sont chrétiens.
Le dernier roi se convertit au christianisme, mais la présence du christianisme ne fait aucun doute à Al-Hira. La présence chrétienne y était importante. Palmyre, c'est en tout cas quasiment l'image qu'elle a dans les textes arabes tardifs, mais dans la réalité, c'était probablement une Palmyre sans colonne, c'est-à-dire une Palmyre avec des populations arabes, mais aussi araméennes. La distinction est délicate, et c'est très difficile encore aujourd'hui de faire une discrimination entre les deux. Donc une ville en tout cas importante pour les auteurs d'époque abbasside, et dont l'image s'est perpétuée jusqu'aujourd'hui, puisque assez récemment, en 2012, les autorités de Najaf ont décidé de relancer des opérations archéologiques sur le terrain. Elles se sont arrêtées depuis, mais l'idée est en tout cas là, et l'idée qu'un patrimoine commun entre chrétiens et musulmans existe dans cette région et qu'il faut le mettre en valeur traverser les esprits des autorités locales.
Vous avez pu vous y rendre vous-même?
Hélas, pas encore.
Donc vous pensez y aller un jour?
J'espère.
Alors revenons un petit peu à la période sassanide. Une période charnière, une période importante. Donc nous sommes en Iran, sur le plateau central iranien, persan. Nous sommes aussi dans la région de Bagdad. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et nous sommes entre le 3e et le 7e siècle. Donc les Sassanides étant renversés par une invasion arabe, où l'armée sassanide est défaite. Et d'après vos lectures, d'après notre étude, d'après ce que nous savons, une église est née pendant cette période-là. Qu'en savons-nous exactement?
Exactement. Alors je reviens sur le tableau géographique et temporel. Donc effectivement, on est dans la région iranienne et proche de l'actuel Bagdad. Bagdad n'est bien sûr pas créée à l'époque, mais la capitale, une des capitales sassanides, est toute proche de Bagdad, c'est Séleucie-Ctésiphon, au sud de l'actuelle capitale irakienne. L'empire sassanide part de son foyer perse, donc au sud-ouest, de l'actuel Iran, et conquiert l'étendue de l'empire qui l'a précédé, c'est-à-dire l'empire parthe. Donc il recouvre les régions actuelles de l'Iran, l'Irak, l'essentiel de l'Irak, une partie de la Turquie, et bon, plus marginalement, et cela varie beaucoup dans le temps, une partie des républiques centra-asiatiques et l'Afghanistan. Il commence donc au milieu du 3e siècle avec la victoire sur les Parthes et il s'achève avec la conquête des Arabes musulmans, puisqu'il y a déjà des populations arabes dans cet empire sassanide. Alors,
Un empire prestigieux, hein, je crois. C'est une espèce d'âge d'or pour dans l'état d'esprit des Iraniens d'aujourd'hui.
Un empire prestigieux qui, déjà à cette époque, en avait conscience, avec une idéologie, une propagande de la renaissance des empires anciens glorieux, tels les empires achéménides. Donc le foyer des Sassanides est tout proche de Persépolis. Donc on ravifie volontiers l'image des anciens achéménides. Et effectivement, aujourd'hui, en Iran encore, l'époque sassanide est un âge d'or. Elle a été vantée dans la littérature, dans les textes d'époque musulmane, du type Ferdowsi. Donc c'est une histoire effectivement importante. Et pour le christianisme, elle correspond à la naissance d'une église. Et véritablement, c'est au cours de cet empire qu'elle se crée, qu'elle s'institue. Il y a une sorte de décalage par rapport à l'organisation de l'église dans l'empire byzantin. Un décalage d'un ou deux siècles, c'est-à-dire l'évangélisation est plus tardive, la christianisation également, et l'organisation en tant qu'église de même.
Alors qu'est-ce qui, au niveau archéologique par exemple, est-ce qu'on a des traces? Je crois qu'elles sont multiples. Est-ce que les textes évoquent une présence chrétienne importante à cette époque-là? Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit sur ce que nous savons pas, sur ce que l'histoire de l'Église occidentale, alors l'Occident commence où? On pourrait se poser cette question. Est-ce que c'est pas une histoire oubliée finalement?
C'est une histoire oubliée qui tient en partie à la difficulté des sources disponibles. Il y a des traces dans la littérature, il y a des traces dans l'archéologie, mais elles sont toutes problématiques. Donc pour l'archéologie, il n'y a pas de monument qui date très clairement de l'époque sassanide, ou en tout cas, on ne les voit plus aujourd'hui. Je pourrais peut-être revenir là-dessus. Pour la littérature, il y a très peu de textes contemporains de l'époque sassanide. Ils sont soit extérieurs à l'Empire lui-même, c'est-à-dire l'endroit de rédaction est extérieur, ou plus tardifs. Des traditions ont été couchées à l'écrit après la chute de l'Empire sassanide à l'époque musulmane. Alors pour l'archéologie, on a des églises dans le sud de l'Irak actuel, sur le pourtour du golfe Persique, mais on les date du début de l'époque islamique. Il y aurait peut-être une occupation antérieure, mais on n'a pas encore d'éléments datant très clairs. Et ça, on peut tout à fait le constater sur le site sur lequel nous travaillons actuellement avec les autorités kurdes, c'est-à-dire Bazian. C'est un site clairement du début de l'époque islamique, avec des phases d'occupation antérieures, mais on ne sait pas de quand elles datent. Il n'y a pas d'éléments datant. Donc peut-être la fin de l'époque sassanide, mais peut-être seulement le tout début de l'époque islamique.
Alors il faut revenir un petit peu sur ce site quand même, le monastère de Bazian. La question avait été abordée, et d'ailleurs il y avait eu une présentation à l'Institut du Monde Arabe il y a quelques mois sur cet endroit étonnant qui est au nord-est du Kurdistan, à la frontière iranienne pratiquement, un lieu de passage, un lieu d'échange. Que savons-nous exactement sur ce monastère, sur ce lieu, disons?
Alors le lieu est assez extraordinaire. Il est situé entre la plaine de Kirkouk et les premières montagnes du Zagros. Donc il est situé au débouché d'une passe. La montagne s'érige pratiquement à la verticale pour bloquer la route. Et il y a seulement un étroit passage qui permet d'atteindre donc les vallées de Souleymaniyé. Et c'est une voie de circulation importante entre la Mésopotamie et le plateau iranien. L'ancienne voie, entre Édès jusqu'à Hamadan et Ekbatan en Iran. Donc qui était utilisée à la fois à l'intérieur de l'Empire sassanide pour les autorités, les armées, mais également pour les marchands, donc qui reliait le nord de la Syrie jusqu'aux routes caravanières de l'Asie centrale.
Détail très important, les marchands, avez-vous dit, donc nous sommes sur des voies commerciales. Est-ce que les religions, dont le christianisme, se sont développées finalement en suivant ces caravanes, ces routes ancestrales?
Assurément, pour le christianisme dans la région, il s'appuie également sur la présence urbaine de communautés juives, qui a été pour le 2e et 3e siècle un moyen évident de diffuser le message évangélique. Et également, les routes commerciales servaient à la fois aux religieux, aux marchands, et donc à la diffusion du christianisme jusqu'en Asie. Et donc c'est ce qui se produit, la diffusion du christianisme se produit surtout au début de l'époque islamique, mais elle a ses germes dans l'époque sassanide.
C'est-à-dire que toute la période postérieure à l'arrivée de l'islam, où le christianisme s'est aussi développé, n'aurait pas pu se faire sans ces fondations de l'époque sassanide.
Il n'aurait pas pu se faire si rapidement. Effectivement.
Et qu'est-ce que le contact de ces communautés avec la culture iranienne vous ont appris sur la capacité peut-être de la bonne parole, du message évangélique de s'adapter, de s'acculturer d'une certaine manière ?
Alors à l'intérieur de l'Empire sassanide, la Mésopotamie, c'est-à-dire la région entre les deux fleuves, le terme n'était pas vraiment utilisé à l'époque, mais en tout cas cette région est intéressante pour étudier le mélange de populations et le mélange de communautés. On y trouve à la fois des populations de langue iranienne, de langue araméenne, de langue arabe dans les marges désertiques, et probablement d'autres populations, notamment grecques, issues de déplacements de populations liés aux conquêtes. On a des traces très claires de cette diversité dans l'onomastique. Des noms de saints sont tout à fait persans et à l'inverse d'autres sont très clairement araméens. Elle nous montre donc cette diversité, la capacité d'un discours à se répandre à travers différentes populations sans discrimination réelle. S'il y a une volonté de limiter le discours, elle est toujours politique et elle ne semble pas qu'elle ait été culturelle.
Vous m'avez proposé un texte à lire et j'ai trouvé un passage très intéressant qui décrit on est à la cour, je crois, et un des grands du royaume et veut devenir chrétien, ou est-il déjà chrétien peut-être ?
Il est déjà chrétien. Alors, l'Empire sassanide est aujourd'hui, notamment au sein des communautés chrétiennes toujours présentes en Irak, il est l'époque des grandes persécutions. Donc j'ai voulu vous présenter cet épisode qui montre qu'à la fin de l'Empire sassanide, il y a des cas très intéressants de personnages tout à fait insérés dans les structures mêmes de l'administration sassanide. Et là, c'est le cas le plus emblématique, c'est le fidèle serviteur d'un des derniers grands rois sassanides, Khosrow II. Ce serviteur s'appelle Yazdine. Je vais vous lire rapidement une petite description tirée d'une chronique assez proche des événements. Elle est du 7e siècle. Elle a été rédigée au sud-ouest de l'actuel Iran. Il y avait en ce temps-là, à la cour royale, un certain Yazdine de Karka du Bedgarmaï. Cet homme était l'avocat de l'église, comme Constantin et Théodose. Il construisit des églises et des couvents dans le monde entier, sur le modèle de la Jérusalem céleste. Il était aussi estimé de Khosrow que Joseph de Pharaon, sinon plus, de sorte que pour cette raison, il était célèbre dans les deux royaumes, des Perses et des Romains. On disait chaque jour, matin après matin, ce Yazdine envoyait au roi 1000 statères d'or. On a donc ici la description de la fortune d'un serviteur chrétien du roi des rois. Et il faut préciser également qu'à cette époque, c'est-à-dire au début du 7e siècle, l'Empire sassanide vient de conquérir l'ensemble du Proche-Orient, la Palestine, la Syrie, l'Égypte et l'essentiel de l'Anatolie.
Donc c'est désormais... La fameuse prise de Jérusalem aussi.
Et la prise de Jérusalem en 614. C'est donc désormais un empire qui règne sur une population zoroastrienne côté iranien, mais également une population chrétienne très importante.
Est-ce que cette proximité d'un tel personnage auprès du roi n'anticipe pas aussi le rôle des chrétiens pour les empires arabes à venir ? Est-ce qu'il est délicat peut-être de dire ça, non ?
Alors on trouve tout à fait en germe, à partir du 6e siècle dans l'Empire sassanide, les grandes institutions qui ont rendu les chrétiens célèbres dans l'Empire abbasside, à savoir des écoles, qui ont permis de conserver ou même d'entretenir la philosophie grecque. C'est avant tout des écoles théologiques, donc la philosophie grecque est un outil. Il y a également des écoles de médecine, je pense à celle de Nizib et surtout de Gundishapur en Iran, qui est restée très célèbre, mais surtout à l'époque abbasside. Et donc à partir de la fin du 6e siècle, et notamment sous le règne de Khosrow, il y a des médecins de cour, tout à fait de la même manière qu'il y a eu, à l'époque abbasside, des médecins de cour à Bagdad.
Simon Brelot, j'aimerais vous poser une autre question aussi par rapport à ces spécificités professionnelles. On trouve beaucoup de traducteurs à l'époque abbasside. Est-ce que de même à l'époque sassanide, on trouve déjà ce rôle de passeur qui a été, non pas dédié, mais pris par les chrétiens pour se singulariser d'une certaine manière?
On le trouve non pas du syriaque vers l'arabe, mais du syriaque vers le pélévi, vers le moyen perse, la langue des sassanides. On le trouve dès le VIe siècle, puisqu'à cette époque, le roi des rois, le roi sassanide, s'intéresse à la théologie chrétienne, nous disent les textes chrétiens. Probablement, il intervient dans la réalité pour maîtriser la confrontation entre des communautés qui commencent à s'opposer sur des termes théologiques, christologiques très pointus. Et donc le roi demande à ses serviteurs chrétiens, puisqu'ils le sont autant que ses autres sujets, il demande des traductions depuis le syriaque jusqu'au pélévi. Donc c'est effectivement une tradition qui s'est maintenue jusqu'à l'époque abbasside. Et à Bagdad, les Syriaques maîtrisaient à la fois l'araméen, le grec et l'arabe.
Et ce rôle de passeur est resté, a été formalisé ou c'était une manière prise par le clergé lui-même, par exemple?
C'était une nécessité pour vivre à l'intérieur de cet empire. On sent bien, concernant les autorités ecclésiastiques, qu'il y avait une nécessité de ménager les autorités à une époque où leur situation est celle d'une religion minoritaire, ou en tout cas qui n'est pas officielle, et une époque aussi où les empires changent. Le pouvoir passe d'une autorité à l'autre. On le voit très bien au moment de la conquête arabe, avec le cas du catholicos, c'est-à-dire le patriarche de l'Église d'Orient ou de l'Église de Perse, qui, sentant l'autorité, le pouvoir des arabo-musulmans grandir, envoie une délégation auprès du prophète Mohammed avec des dons, avec des savants, pour ménager, pour s'assurer la solidarité de ce pouvoir naissant. Alors cette attitude lui est reprochée immédiatement par le roi des rois, qui vit dans la capitale. Le catholicos aussi vit dans la capitale, c'est le Ctésiphon. Le catholicos, le patriarche, se justifie en disant que la situation des chrétiens dans la péninsule arabique étant problématique, il était obligé d'intervenir. Mais dans la réalité, on voit que cette position lui permet, au moment de la conquête arabe, d'établir avec les arabo-musulmans un contrat, un accord, un pacte.
Donc il est déjà il s'installe comme une institution.
C'est quelque chose qui s'est fait progressivement à l'époque sassanide. On ne peut pas encore parler d'église organisée au tout début, au 3e et 4e siècle. Et on voit vraiment la naissance de cette église, l'organisation, et donc tout ce qui est lié à cette organisation, c'est-à-dire les conflits internes, les différentes positions théologiques qui arrivent assez tardivement. Il faut faire attention de ne pas trop tôt accoler l'étiquette théologique qu'on connaît par la suite de cette église, c'est-à-dire nestorienne. Cette position arrive très tardivement.
Oui, c'est le nom qui a été, malheureusement pour eux, qui est resté dans l'histoire pour les désigner, mais c'est l'église de Perse dont nous parlons tout simplement.
C'est l'église de Perse et c'est vraiment ce qui la définit le mieux, puisque c'est une église qui s'est constituée à l'intérieur de l'empire perse. Alors, il ne correspond pas seulement à la région de la Perse, mais ça permet de bien cerner également la logique de cette église qui est de régir les chrétiens d'une région, mais également de se détacher, ça a été un point important pendant toute l'histoire des chrétiens dans l'Empire sassanide, de se détacher de l'image de cinquième colonne de l'Empire byzantin à l'intérieur de l'Empire sassanide.
Voilà, donc, l'Empire byzantin qui était l'ennemi héréditaire d'une certaine manière, donc il voulait se démarquer de cette image.
De l'autre côté du désert syrien, il y a effectivement l'Empire romain qui devient chrétien au début du 4e siècle et qui le devient officiellement à la fin. Il était important pour les chrétiens de l'Empire sassanide de se démarquer, et cela également du point de vue ecclésiologique, puisqu'on se coupe de l'autorité du siège d'Antioche, qui était jusqu'à présent l'autorité pour l'ensemble des chrétiens d'Orient.
Dernière anecdote qu'il faut quand même évoquer assez rapidement, s'il vous plaît, Simon Breloux, c'est la rencontre avec la Chine. Ce sont des chrétiens qui partent de Perse, mais la grande Perse de l'époque, de Bagdad, de Séleucie Ctésiphon, et qui se rendent jusqu'en Chine.
Alors il est intéressant de voir qu'on a assez peu d'informations dans les textes contemporains des époques concernées, c'est-à-dire 6e, 7e siècle. Mais il n'y a aucun doute que le phénomène a commencé à ce moment-là. Donc on a des inscriptions du 7e siècle, d'époque islamique, qui mentionnent donc la présence de chrétiens dans ces régions et des chrétiens qui maîtrisent le syriaque, qui était la langue des chrétiens utilisée dans l'Empire sassanide et dans l'Empire byzantin, dans une large partie de l'Empire byzantin. Donc effectivement, c'est un phénomène qui commence à cette époque-là, qui s'appuie probablement sur les communautés chrétiennes disséminées à travers les voyages, mais également la circulation des ecclésiastiques, c'est important aussi, il n'y a pas seulement les commerçants. Et on voit à travers l'histoire de l'Empire sassanide que les couches sociales concernées, ce ne sont plus seulement les commerçants, les artisans, mais véritablement l'ensemble des strates de la population sassanide, dans les campagnes, dans les villes et même au sein de la cour.
Mais ils arrivent jusqu'en Chine, une délégation est reçue à Xi'an à l'époque, non ?
Exactement.
Voilà, Simon Breloux, je vous réinviterai pour évoquer la question de la Chine. Voilà, on a terminé un peu brutalement en laissant nos auditeurs sur cette fin. Donc il y aura une suite à notre rencontre. Voilà, je remercie pour la réalisation de cette émission Dany Journeau, Anne-Catherine Lochard et Philippe Palares. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Merci.